La séparation, l'aliénation, c'est quoi ce que j'ai dit, hein, l'aliénation qui est là? L'aliénation qui est là, je dis que ça se définit comme une différence symétrique qu'un choix forcé rend dissymétrique. Bon, ça, ça veut dire la bourse ou la vie. Mais quand vous proposez la bourse ou la vie, comme Vell, en disant comme ça, la bourse ou la vie, vous disiez ça où? Ça, c'est le deuxième où que je vais vous, mettre là-bas au tableau. Ça, c'est le deuxième « ou ». C'est le troisième « ou ». On va l'appeler le « ou » numéro 3. Ça, c'est le « ou » numéro 1. Et ça, c'est le « ou » numéro 2. Quand vous dites à quelqu'un « ou », la bourse ou la vie, hein, s'il est con, s'il est psychotique, ça veut dire s'il ne sait pas lire, s'il ne sait pas qu'il faut aussi avoir, être branché dans le discours pour pouvoir entendre quelque chose, lire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas faire la distinction entre les trois « ou » puisque ça se dit toujours « ou ». Vous voyez comme quoi Mme Imbert, elle a tort quand elle nous dit qu'on n'a rien à foutre de cette logique propositionnelle. Hein? Elle dit pourquoi? Parce qu'elle a lu Quine, et Quine, il a fait un petit livre de logique qui s'appelle « Introduction à la logique » dans lequel Quine, c'est un logicien de la grammaire. Qu'est-ce qu'il fait avec la grammaire, Quine? Il essaie d'écrire la logique dans la grammaire, dans la langue anglaise, avec ça. Et il s'aperçoit, alors il fait un petit livre qui s'appelle, qui est paru collection U. Je ne sais pas que c'était Armand Collin. Non. Bon, ça se trouve encore peut-être chez les bouquinistes, un petit livre de Quine qui s'appelle Introduction à la logique. C'est pas les méthodes de logique de Quine, c'est Introduction à la logique. Dans lequel il passe en revue tout le. Bon, il y a si, alors, et, ou. Bon, ça, c'est des connecteurs de la langue qui se traduisent bien. Mais le ou, on le traduit toujours comme ça. C'est le ou inclusif, voyez-vous. Si vous avez P ou Q, P ici, ou Q ici, P ou Q, ça veut dire tu veux du dessert ou du fromage ou du dessert. Et si tu veux les deux, tu as le droit. Ça, c'est le ou inclusif. Hein. Fromage ou dessert. Vous voyez bien que dans certains restaurants, dans certains routiers particulièrement, hein, les RP sont énervés par ça parce qu'on leur dit c'est fromage ou dessert, c'est exclusif. Alors, vous voyez, moi je sais parce que moi, dans ma famille, il y a plein de représentants de commerce. Alors, vous voyez, ils m'ont tous raconté que c'était dégueulasse. Pendant les années 50, on n'avait plus droit à fromage ou dessert ou les deux. On n'avait plus droit qu'à celui-là. Ça a commencé dans les années 50, vous vous en souvenez pas, mais. Moi, je m'en souviens. Et, oui, mon père, il disait un repas, c'est avec fromage et dessert. Enfin, chez nous. Franchement, ça, c'est ça les noms du père, oui, ça tient à la peau. Bon, alors, ça, c'est le ou un qui s'écrit, alors, qui s'écrit ou comme ça. Je l'ai mis à côté, là. Donc, je vais le mettre à côté, le deuxième. Ça, c'est le un. Le « ou » numéro 2, il s'écrit comme ça. Alors ça me fait rire, parce que justement, à cause de Quine, de Imbert et de tous ces gens qui ont des préjugés, mais complètement idéologiques à propos de la logique et de la langue, ils viennent nous dire, vous avez plein de gens qui disent « mais le « ou » exclusif, ça existe, alors comment est-ce qu'on pourrait l'écrire ? Ils croient qu'il faut l'inventer. » Il ne faut pas l'inventer. Personne ne vous a dit, ça doit vous surprendre quand même. Est-ce que vous avez déjà capté que le « ou » exclusif, il n'a pas le centre, l'intersection, ça s'écrit comme ça, P ou Q, c'est les deux oreilles, c'est les deux lunes, sans intersection. Vous savez ça, vous?
Non.
Ah, vous voyez, vous ne savez pas. Personne ne m'en parle. Mais oui, mais faites la table de vérité, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est très sérieux. Et ça, justement, en algèbre de Boole, ce ou numéro 2, on va l'écrire plus. C'est le fameux plus qui va nous créer tant de surprises avec le fait que quand quelque chose est déjà là, si on l'ajoute, le fait de se superposer, ça le fait disparaître. Et quand quelque chose n'est pas là, si on l'ajoute, le fait de le mettre, ça, là, il y est enfin. Bon. Pourquoi ce mystère? Parce qu'en algèbre de Boole, vous avez un axiome, et c'est pas de la logique comme ça, hein, l'algèbre de Boole. Donc je vais le mettre, ni même comme ça. L'algèbre de Boole, je vais le mettre ici. Je vais retirer les deux petites implications là. Voilà, dans le métalangage de ce système-là, qui est complet, qui est le seul système scientifique complet, et avec ça, si vous avez même un modèle électrique qu'on a employé dans les ordinateurs comme électronique, c'est avec ça que marchent les ordinateurs, vous avez un système complet Mais dans l'algèbre de Gould, ça, ça s'appelle système d'écriture, système d'écriture de Frege, hein, et de Peirce, de la coordination logique. Et on vient nous dire, après Quine, que ce n'est pas, que c'est artificiel, que c'est sans intérêt pour la langue. Que ça, c'est sans intérêt pour la langue. Ici, ça s'appelle algèbre de Boulle, qui est un métalangage. Algèbre de Boulle. Vous pouvez tout traduire de ce système dans l'algèbre de Boulle, mais à une seule condition. Il faut introduire en plus un caractère comme ça, et lui, il n'est pas là. Vous voyez ? Ici, en logique de la coordination, vous avez ça. Et le égal, ça va être ça. Regardez, P équivalent à Q. Ça existe en algèbre, dans le calcul de Peirce, de Frege. Et ici, on va introduire un truc qui s'appelle « Il est vrai que P est Q. » Que P est équivalent à Q. Ça, il y a des logiques de logique qu'on écrit comme ça. Regardez. Voilà. Mais ce n'est pas dans le langage objet. Et si vous ajoutez ça, c'est la même chose que d'ajouter l'égalité. Et là, hop, miracle, vous êtes en algèbre de Boulle. C'est des problèmes d'énonciation. C'est des problèmes de scription. Si vous ne faites pas cette différence, vous n'y comprenez rien. Bon, et ça n'intéresse personne, parce que quand j'essaie d'expliquer ça, personne, je fais des cartels, mais j'essaye, personne vient au cartel, on attend que ça se passe. Très bien, ça va se passer, de toute façon. Mais je fais crever que ça ne changera rien, ça continuera avec le même problème. Bon, oui.
Donc vous êtes, vous mettez P, des fois plus 1.
Oui. C'est la négation. En algèbre de Gaulle, ce qui s'appelle non P comme ça, il n'y a pas plus à Freud, en algèbre de Gaulle, ça s'appelle P plus 1. Au lieu de dire non P ou non F, c'est P plus 1. Pourquoi P plus 1 c'est R? Pourquoi P plus 1 c'est non P? Regardez, je vais vous donner des trucs diagrammatiques pour penser ça. P plus 1, c'est une façon d'écrire la négation. Pourquoi? Parce que dans le diagramme de la négation, ça c'est des diagrammes du OU. Hein, je vais écrire le troisième OU, le OU de l'aliénation de Lacan. Hein. Lacan, il a créé un troisième OU en logique symbolique qui n'existait pas avant lui. Il existait, mais on ne l'avait jamais repéré comme un OU. Hein. C'est fantastique, Lacan. Bon. La négation, pourquoi vous pouvez écrire P plus 1? Regardez, je vous fais le dessin là. Si je fais un dessin diagrammatique de P, qu'est-ce que c'est que non P? Non P, c'est son diagramme, c'est ça, regardez. J'enlève P et tout ce qui reste, c'est non P, c'est tout ce qui est tout autour. Vous êtes d'accord que c'est ce que certains croient être le complémentaire en sandwich? C'est pas tout à fait le complémentaire en sandwich. Vous voyez, P, c'est ce qui est dans le rond, et non P, c'est ce qui est en dehors du rond. Ok? Ça, c'est l'opposition dedans-dehors. C'est la négation classique. Hein? C'est ce que croit Aristote. C'est ce qui fait croire, quand il dit que c'est ce qui fait croire Aristote, même que le dieu de la nature, il sait lire. Puisque tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson. C'est Lacan qui dit dans le séminaire, dernière leçon du séminaire d'identification. Vous disiez ça, c'est magnifique. Il vous explique que Aristote, Kant, c'est Jung. Et comme tous les psys, là, ils sont Jung, ils sont Kant aussi, donc ils sont Jung. Donc vous voyez, ils sont tous jungiens. C'est pour ça qu'il y a des nazis qui apparaissent comme ça, qui commencent à sortir leur nez. Là. Pour dire que quand il n'y en a qu'un d'arabe, ça va, mais s'il y en a plusieurs... Non mais c'est quand même insensé, ben, c'est une honte. Comment peut-on vivre dans un pays où il y a un mec pareil comme ministre, non, mais, et qui voulait être Premier ministre, vous voyez la provocation. Ce sont des provocateurs, ils veulent aller le plus loin possible, ça va retomber lourd sur la gueule, mais tous ceux qui ont été entraînés là-dedans, ils vont en prendre aussi plein la gueule. Vous savez, il n'y a pas de secret en politique. Hein. C'est pas pour faire des chichis qu'il faut être responsable de ce qu'on dit. Il faut prendre la responsabilité. Vous avez remarqué, si vous ne comprenez pas là, ce qui vient de se passer avec l'université d'été de l'UMP, ils appellent ça l'université d'été. Non mais l'université, c'est pas une université. C'est une réunion politique, c'est pas une université. Pourquoi tous ces partis veulent faire des universités? C'est pas des universités. Ils sont étudiants, les mecs, c'est pour faire quoi? Pour nous faire croire qu'ils sont intelligents, des intellectuels, qui savent lire, écrire, parler, pas du tout. Ils ne savent rien. Non. Ils appellent ça université. Qu'est-ce qu'ils font? Lisez ce magnifique texte de Coiré qui est paru chez Alia, qui s'appelle « Le mensonge », et dans lequel Coiré explique comment s'est installé le nazisme et comment fonctionnent en général les idéologies fascistes. Lui, il pensait aux idéologies fascistes, Coiré. Ça a été republié chez Alia en tout petit livre. Ça s'appelle « Il explique qu'est-ce que c'est que le... comment on fabrique un complot à ciel ouvert ». Un complot dans lequel on est en train d'organiser un complot. Je ne suis pas un paranoïaque quand je dis ça. Moi, je m'en fous, je vis en Argentine. Ils ont déjà eu, il y a quelque temps, la bombe est tombée. Il y a un trou là-bas. Ils ont eu une dictature. Alors, je me suis mis dans un... on appelle ça comment? Un trou de bombe. Un cratère de bombe. Moi, je suis allé dans le cratère de bombe. Ça, comme c'est déjà tombé, peut-être ça ne va pas tomber tout de suite. Dès que ça commencera à aller mal là-bas, je vais revenir ici. Bon, je suis un opportuniste. Bon, le point, il est surtout que quoi? Et qu'est-ce qu'il explique, Coiré? Il explique que le discours de ces gens consiste à tenir un discours qui est tel que les adhérents, les adeptes, c'était Le Pen, ils faisaient ça tout le temps, les mecs du Front National, ils faisaient ça tout le temps, vous avez qu'à parler avec eux, vous allez voir. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a dit. Non, vous dites qu'il dit des choses pas bien, mais vous ne comprenez pas, parce que finalement, il veut dire ça. Il ne veut pas dire ce qu'il a dit, mais il veut dire autre chose. Voilà, complot à ciel ouvert. Comment tenir une langue qui va dire une chose pour l'extrinsèque et une autre chose pour l'intrinsèque? C'est un exercice narcissique chez le paranoïaque. C'est intéressant, comme Le Pen. Bon, c'est des paranoïaques, ces mecs. Et donc, c'est hyper narcissique comme truc. C'est un discours pour l'extrinsèque, un discours pour l'intrinsèque. La même phrase, elle peut être à double entente. Alors, vous voyez, vous avez les adeptes, ils l'entendent du bon côté. Vous voyez, moi, je sais parce que je suis dans le groupe. Je fais partie de la famille, je comprends ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, c'est vrai que ça existe, la signification. Hein, moi, je dis que ce fait de l'incorporel, comme l'appelaient les stoïciens, ce que l'étranger ne peut pas comprendre, ça existe, puisque c'est justement ce qui est passionnant dans la signification. Le nom du père, ça relève de ça. Signifiant, banal pour tout le monde et exceptionnel pour le sujet. C'est typiquement quelque chose qui est incorporel, qui est... Les autres ne peuvent pas comprendre. Camembert, ils ne peuvent pas comprendre.
Non, non. Quand Sarkozy fait des baisse-main au Japon.
Voilà, bon.
Ça, les Japonais, ils ne comprennent pas.
Ils ne peuvent pas comprendre. Bon. Donc, voilà. Mais vous voyez qu'ils sont bien préoccupés, comme le dit Lacan. Forclusion, hein, c'est pas vouloir lire, pas interdire qu'on lise avec équivoque. Et en plus, ils sont passionnés par le fait de jouer du nom du père. Bon. Ça, c'est de la psychose, hein. C'est de la psychose, mais c'est pas grave, la psychose, il y en a plein. Le problème, c'est pas être fou de ça. Le problème, c'est de prendre ses responsabilités politiques. C'est là que je gueule. Moi, je suis pas là à dire que les gens sont psychotiques, que c'est une calamité. Bon, c'est un peu emmerdant parce que c'est pas rigolo du tout de pas être capable de capter, la chapelle Sixtine pour une autre raison que c'est au Vatican. Ou la musique de Bach, parce que c'est la musique classique occidentale. C'est dommage, les variations de Goldberg, ça s'apprécie, je dirais, hein, c'est comme disait Sartre du jazz, quoi. Hein. Sartre était aussi raciste, il disait que c'est comme les bananes, ça doit se manger sur place. Moi, j'ai toujours trouvé cette phrase raciste, parce que c'est quoi, il voulait évoquer que les Noirs américains étaient aussi comme des singes, vous voyez. Bon. On dit jamais que Sartre pouvait être raciste, mais parce qu'il était courageux, brave. Mais vous voyez qu'on est en plein équivoque. Et donc, lisez ce petit livre de Coiré qui s'appelle Le mensonge, chez Alia, sur le mensonge, ça s'appelle, et dans lequel il explique comment se fabrique un complot à ciel ouvert. Comment on peut tenir un double discours de manière à ce que tout ce qui va se passer est dit. Et il cite Mein Kampf en plus. Il dit, regardez, Mein Kampf, Hitler, il l'a même publié, il a dit, personne n'y croit. Personne ne peut y croire. Moi, je vous soumets une seule raison de qui peut vous permettre de surmonter vos préjugés et l'ambiance et la signification commune aujourd'hui, c'est que un discours comme aujourd'hui qui fait l'unanimité du fait qu'on ne pourrait pas en tenir d'autre, vous voyez, si tout est calculé, il n'y a pas de pourboire à décider, il n'y a pas de... Tout est parfaitement bien géré d'une manière efficace et totale. Que ce qu'on soit de droite ou de gauche, c'est pareil. Si un discours qui fait l'unanimité, politiquement, c'est toujours ruineux. Ce n'est pas pour avoir l'esprit de contradiction, mais voyez, l'unité nationale, c'est ruineux politiquement. On le sait, c'est pas de la science politique que je suis en train de vous dire. Bon, et bien cette question, on s'en occupe plus. Pourquoi ? Parce que les psychanalystes, nous sommes les élèves de Lacan, de Freud, incapables de nous expliquer sur ces trucs-là, qui fait que pourquoi est-ce qu'il faut passer par l'écriture si j'ai un phénomène que je vous montre avec des couleurs ? Je ne le montre pas ce soir, je peux le montrer si vous voulez le revoir. C'est comme au cinéma. Ça marche en géométrie. Ça, c'est un diagramme dans lequel on va faire rentrer tous les cas dans un diagramme unique. Hein, le diagramme, il est synchronique. J'ai bien dit ici, c'était diachronique. C'est génial d'avoir un truc diachronique qui rentre dans un diagramme synchronique. C'est l'idée de Saussure. C'est la différence entre la parole et l'écrit, et la parole et la langue chez Saussure. Ce que Lacan appelle la langue en un seul mot. Hein. Donc la diachronie rentre dans la synchronie. Ça, si les linguistes pouvaient faire ça. Eh bien, les linguistes, ils auraient une meilleure appréciation de la langue s'ils réfléchissaient en linguiste pourquoi, ayant un exemple où ça marche, eh bien pourquoi avec la langue ça ne marche pas. Eh bien, ils feraient des progrès en linguistique. Parce que même les échecs, c'est productif, contrairement à ce que croient les cons. Eh oui, c'est-à-dire les types qui pensent qu'il faut réussir, qu'il faut être compétitif, casser la gueule à tout le monde pour que ce soit efficace et tout ça. Bon. Donc, vous voyez, je vous propose de montrer comment ça marche, ce truc-là. Comment vous faites rentrer la diachronie dans la synchronie. Il y a un deuxième facteur.
Vous revenez sur le troisième roue, là, pour le dessiner.
Ah, le troisième roue, vous voulez que je vous le dessine?
Ah oui.
Eh bien, écoutez, c'est pas difficile, le troisième roue.
C'est l'oreille.
Alors, vous avez l'extérieur qui est comme ça. Bon, ça, c'est le même que ça. OK. Tout le monde le voit. Et alors, pour l'écrire bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est que ça. Quel est le diagramme de P, de Q? P est impliqué par Q, puisque ça c'est la négation de celui-là. Qu'est-ce que c'est celui-là, le P est impliqué par Q. Le P est impliqué par Q, c'est que Q est à l'intérieur de P, comme ça, voilà. Q et P. Si rien ne dépasse de Q en dehors de P, c'est que Q implique P. C'est l'inclusion ensembliste. P est à l'intérieur de Q. C'est ce qu'on peut dessiner géométriquement comme ça, vous voyez. Q, il est à l'intérieur de P. Ça, c'est P et ça, c'est Q. On va utiliser cet opérateur-là pour écrire justement que les ronds A et les ronds A', les deux ronds A et A', ils sont dans S et dans A. C'est pour ça que ça va nous servir. Hein. On va s'en servir de ces petites notions-là. C'est dans tous les livres logiques. Hein. Bon. Donc voilà. La négation de ça, c'est quoi? La négation de ça, c'est quoi? Eh bien, regardez. Il suffit de rayer tout ce qui n'est pas rayé dans ce diagramme-là et ne pas rayer ce qui est rayé ici. Vous voyez ? Là, vous allez rentrer dans cette mathématique dialectique. Alors, ça, c'est un ou inclusif. Un ou exclusif, dessert, fromage ou dessert, ou les deux. Fromage ou dessert, mais pas les deux. Et ça, c'est un ou encore, alors que vraiment, c'est pas un ou. Regardez, vous n'avez pas le choix, là. Vous pouvez prendre que la case vide. Dans tous ces cas, vous ne pouvez prendre que les cases vides, donc vous ne pouvez pas prendre la case. Si vous prenez que la case... Si vous pouvez prendre quelque chose, ça peut seulement être ça. C'est à l'intérieur de Q. Bon. C'est bien ça, la bourse ou la vie. Qu'est-ce qu'il vous dit le bandit qui est au coin du bois, là, qui vous menace avec un flingue ou un rasoir? Il vous dit, la bourse ou la vie, ça veut dire quoi? Tu vas me donner la bourse ou tu me donnes la bourse ou la vie? Ça veut dire, tu me donnes ta bourse ou je te tue? Hein? Bon, pourquoi c'est malhonnête?
Logiquement.
Oui, logiquement malhonnête. Pourquoi c'est malhonnête? Parce que vous n'avez pas le choix. Ça se présente comme un ou, il est génial Lacan, ça se présente comme un ou numéro 2. La bourse ou la vie, ça se présente comme un ou numéro 2, mais il y a un choix forcé qui est synthétique. Qui est synthétique. Pourquoi il est synthétique? Parce que c'est parce qu'il s'agit de la bourse et il s'agit de la vie. Et c'est surtout parce qu'il s'agit de la vie. Dès qu'il s'agit de la vie et de la mort, vous avez ce « ou » qui se pointe, cette aliénation qui se pointe. Mais oui, parce que qu'est-ce que vous voulez foutre d'une bourse si vous êtes mort? Dites-moi. C'est ça qui est malhonnête.
Donc, c'est ancien.
C'est...
Non, non, dans les cultes, c'était important d'avoir des richesses avec soi.
Ah oui, oui, d'accord. Oh, d'accord. Oui, là, vous faites du peu Morgane. Hein.
Non, non,
oui, oui. Alors, Fabien, l'univers du discours, je suis obligé de... Bon. Mais n'empêche que justement, vous voyez, ça c'est les inconvénients de l'exemple synthétique. C'est pour ça que c'est important de voir que le P, que ce ou-là, il existe entre le vrai et le faux. Parce que vrai et faux, c'est différent au sens de celui-là, vrai et faux. Quand c'est vrai, c'est pas faux, et quand c'est faux, c'est pas vrai, d'accord? C'est comme ça. Mais entre vrai et faux, il y a un truc en plus, c'est que le faux applique le vrai, mais seulement le faux nécessaire implique le vrai nécessaire. Le faux de l'antilogie implique la tautologie. Et ça, c'est dans les termes même de la définition du faux et du vrai. Bon. Mais ce n'est pas vrai de n'importe quel phénomène, justement, synthétique, c'est-à-dire constatif, c'est-à-dire apophantique. Quand ça peut être vrai ou faux, quand ça peut être comme ça, c'est différent. Et vous voyez que vous avez très bien mis le doigt sur le fait que dans le cas de la bourse ou de la vie, c'est l'aspect synthétique qui est plus affaibli. Alors que du point de vue analytique, entre le vrai et le faux logique, là, c'est imparable. Il n'y a pas d'univers de discours qui tienne. Pourquoi ? Parce que c'est lié à cette histoire de la vérité qu'on doit dire. Le vrai est logique et le faux logique. Et c'est ce que dit Frege. Et Frege, le pauvre vieux, vous voyez ce qu'il dit à la fin de sa vie, il dit, si j'avais trouvé une particule chimique qui a les propriétés du vrai et du faux et de la vérité, eh bien, j'aurais pu convaincre mes contemporains. Bon. Et vous voyez pourquoi je vous dis que Lacan, c'est un génie, parce que lui, quand il a un problème comme celui de Frege, que personne ne comprend rien à rien, hein, même les plus gentils, les plus dévoués, les élèves qui sont prêts à lui cirer les pompes, mais de l'important, c'est qu'ils veulent l'héritage, mais ils s'en foutent de comprendre quoi que ce soit à ce que raconte le vieux Lacan, eh bien, Lacan, c'est quand même extraordinaire, il fait, lui, il n'est pas content, et il fait quoi? Il se donne la peine d'inventer ça. Et pour parler de la séparation, et c'est avec ça qu'on va pouvoir suivre son propos sur la répétition, hein, parce que je vous rappelle qu'est-ce qu'il dit sur la répétition, Lacan. Tenez, regardez, il y a des ronds avec des trous dans le séminaire, les quatre concepts. Hein. Il y en a plein de ronds de diagrammes de l'herbe. Vous connaissez celui-là, ça c'est l'histoire de la bourse ou la vie. Vous connaissez celui-là, hein? Vous avez des trucs assurés puis un truc vide. Bon, il y en a plein. Bon, ça, c'est l'intersection qui est assurée. Bon, ils ont dessiné un peu n'importe quoi, les braves éditeurs. Hein. Bon, ça, je ne peux pas leur en vouloir. Hein. C'est absolument impossible à reproduire. Ils n'avaient pas même les moyens que nous avons, nous. Vous pouvez prendre des photos, si vous voulez. Bon, le problème, il est surtout de voir comment on va avancer là-dedans, qu'est-ce qu'on peut capter de cette histoire. Alors Lacan, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit de la répétition? Comment il introduit ça? Regardez ça. Hein? Ce que je vais vous dire maintenant est si nouveau, encore qu'évidemment assuré de ce que j'ai articulé du signifiant. Que j'ai cru devoir vous formuler dès aujourd'hui sans rien garder de mes cartes dans mes manches, comme j'entends la fonction de la répétition. Et il commence par faire un commentaire très bien, très clair et très simple sur le mot allemand de Wiederkehr. Wiederkehr. Donc, cette fonction, en tout cas, n'a rien à faire avec le caractère ouvert ou fermé des circuits, que j'ai appelé tout à l'heure Wiederkehr. Donc le problème, il dit, Lacan, il nous dit d'abord cette chose qui échappe à tout le monde. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très nouveau. Hein. Moi, je dis que c'est tellement nouveau ce que Lacan veut dire avec la répétition, que encore aujourd'hui, ça c'était en 64, donc plus de 40 ans après, 45 ans après, c'est toujours très nouveau. C'est toujours très nouveau parce que tout le monde a enlisé ça. Tout le monde a enlisé ça. Quelle est l'histoire de cette répétition? Alors, ça commence avec l'exposé de Hippolyte sur la négation freudienne. Vous voyez, il faut que vous lisiez cet exposé et que vous vous rendiez compte que Hippolyte va faire effectivement dériver la question de la négation, hein, qui est le titre de l'article de Freud, vers les deux autres problèmes qui sont le problème du plaisir, du principe du plaisir et du principe de réalité. Et vous voyez bien qu'il y a un obstacle à lire l'article de Freud comme je le lis, en vous disant que Freud, il a appris qu'on écrivait enfin la négation, le prédicat, le canteur. Je suis tout à fait disposé à, justement, je pense que c'est le gros de cette affaire, ça va être vraiment le problème sur lequel tout le monde a cané et a apporté des préjugés au lieu de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien que Freud, dès qu'il parle de la négation, il met un point d'exclamation et même un point d'interrogation et même un point, je ne sais pas, énorme. Il dit, quand le patient, grâce à la négation, peut faire apparaître dans son discours vigile quelque chose de l'inconscient qui apparaît donc d'une manière niée, hein, c'est pas pour autant qu'il a surmonté le refoulement. Parce qu'il y a une différence, nous dit Freud, vous voyez, et tous les crétins vont se précipiter là-dedans pour ne jamais avancer, comme si les choses étaient acquises d'avance, qu'on n'y comprendra rien et qu'on ne peut pas se donner la peine de penser ça. Il y a une différence entre la fonction intellectuelle et les processus affectifs. Qu'est-ce que c'est que cette différence, voilà. Et vous allez voir que la lecture de Hippolyte est très intéressante pour voir que Hippolyte, ça n'empêche pas d'avancer. Bon. Mais ça va être arrêté. Et cette question, il y a donc deux questions. C'est, Hippolyte passe de la négation qui est la découverte de chez Freud, c'est une réflexion de Freud après Hippolyte sur ce que c'est que penser, comment la pensée, c'est justement quelque chose de fonctionnel. C'est pas quelque chose d'expérimental. Bon. Vous voyez que la raison de la pensée, Lacan va la donner seulement lors du dernier séminaire qu'il va donner à Paris avant de partir pour Caracas. Il a mis pendant des années inhibition, symptômes, angoisse au tableau, et puis tout le monde est là en train de faire gloser, faire de l'érudition autour de ça. Ils lisent même pas Freud en allemand, et même s'ils lisent en allemand, ils ne comprendraient rien. Le problème, c'est que Lacan, il attend le dernier moment pour dire vous êtes, nous sommes. Hein, la question que Freud se pose dans inhibition, symptômes et angoisse, quelle est la cause de l'angoisse? C'est le trauma. Qu'est-ce que c'est que ce trauma? Est-ce que c'est le trauma de la naissance? Les deux derniers chapitres sont consacrés à Rambo. Est-ce que c'est le trauma de la naissance? Il dit oui, c'est pas mal, la naissance, c'est psychanalytique. C'est pas comme cet enfoiré de Jung. C'est pas des déconnages mystico-magiques. Et il avait dit, bon, c'est. Rang, c'est pas mal, mais il y a un inconvénient, c'est que si nous étions traumatisés par la naissance, nous devrions tous être névrosés de la même manière. Bon. Il appelle ça, Freud, le facteur constitutionnel. Il y a un facteur constitutionnel, ça veut dire comment est-ce que c'est possible? Faites bien attention en logique avec ce mot de possible. Lacan, il a écrit question préliminaire à tous les traitements possibles de la psychose. Lacan, il explique possible, c'est un mode, à côté de nécessaire, impossible, convergent. Mais possible, ça veut dire en logique, nous dit Lacan, tout le monde le pense à l'envers. Tout le monde pense que possible, ça veut dire si c'est possible, c'est que ça pourrait arriver. Mais Lacan, il dit non, ça c'est le contingent. Possible, c'est quand ça pourrait arriver, mais ça pourrait ne pas arriver. C'est ça ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que le traitement des psychoses est possible, parce que ça ne peut pas se produire, c'est-à-dire à la fois, voilà, c'est que c'est vachement possible, puisque justement ils ne savent pas quoi faire avec que de leur donner des neuroleptiques, leur soi-disant psychotique. C'est vraiment le traitement de la psychose, hein, c'est quand même parler de coups de feu là, et des connards, hein, c'est quand même de la psychose. Là. Bon, alors le problème c'est que possible. Ça pourrait ne pas avoir lieu. Voilà ce que c'est que possible. Et la question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce que c'est que la fonction intellectuelle, qu'est-ce que c'est que le processus affectif? Tout le monde croit comprendre. Et en quoi ça contredirait à ce moment-là la psychanalyse, et c'est à partir de là que tout s'est effondré, hein, que les processus, les fonctions intellectuelles, c'est juste effleurer le refoulement. Ça ne résout pas le problème, ça ne va pas résoudre le symptôme, ça ne va pas faire psychanalyse. le fait que le sujet devienne conscient, moyennant, enfin, ça paraît dans la conscience, mais moyennant la négation, ce qui est dans l'inconscient, ça ne va pas encore surmonter l'inconscient. Donc, qu'est-ce que c'est que l'acte analytique? Qu'est-ce que c'est qui va faire sédation du symptôme? Comment est-ce qu'on intervient dans la psychanalyse? Alors là, vous avez un petit passage, bijou de Lacan, beaucoup plus tard que 64, hein, c'est dans Radiophonie, où vous verrez que Lacan, il explique bien qu'il n'y a que dans sa théorie, avec la bande de Möbius et la coupure, qu'on peut expliquer qu'est-ce que fait l'interprétation. L'interprétation comme coupure. Il ne s'agit pas, écrit Lacan dans Radiophonie, question 3 de Radiophonie. Il ne s'agit pas de rendre conscient ce qui est inconscient, comme l'anone, les anoneurs qui restent sur la touche. Qu'est-ce que c'est que l'acte analytique dès l'interprétation? Bon, ça ne se résume pas seulement à l'interprétation. L'interprétation, moi je pense que c'est un moyen de mettre le patient sur la voie, sur la piste, hein, de le soutenir dans sa démarche qui va aller vers justement. Il va falloir qu'il lise lui-même. C'est pas l'interprétation, c'est pas en venant de l'autre qu'elle va pouvoir produire l'incorporel que l'étranger ne peut pas comprendre. Justement, on n'arrivera jamais à analyser quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est occuper cette fonction pour le mettre sur la piste du fait qu'à un moment donné, il faut qu'il devienne l'analyste de sa propre expérience. Il n'y a pas de métalangage, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais que l'interprétation, ça n'a pas quelque chose à voir avec le mouvement en nous.
Attendez.
Non, mais dans votre théorie.
Bon, Lacan, dans Radiophonie, c'est la coupure de la bande de Möbius.
Oui.
Il pose la question, est-ce que oui ou non?
Non, mais
je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je ne présente aucun intérêt. Moi, je vous invite à lire Lacan. Bon.